vous inquiétez pas, on va rien spoiler parce qu'on n'a pas encore vu les matchs dont vous connaissez probablement déjà les résultats, puisqu'on a enregistré le vendredi. Vous êtes probablement samedi ou après pour le CQFR, le ce à quoi il fallait répondre, pour lequel je suis rejoint avec par Shai. Dis donc, la semaine a été très très longue, Shai. Très très longue, trop ça, de matchs, des nuits trop courtes.
Hein. Voilà, c'est les playoffs, c'est normal.
Exactement, on en parle, on en perd notre français. Shai, donc on est là aujourd'hui pour répondre aux questions des ouais. internautes, celles que vous nous avez envoyées à l'adresse cqfr@reverse.cqfr.reverse@gmail.com. Décidément, rien ne va aujourd'hui. Shai, c'est toi qui as fait le débrief des ouais. questions, c'est pas moi qui m'y suis collé, c'est Shai à nouveau pour la deuxième semaine consécutive. Et tu me disais qu'il y avait pas mal de questions intéressantes, notamment prospectives. Alors, il m'a pas dit de quoi ouais. il retournait, mais tu m'as dit qu'il y avait des trucs cool.
C'est ça, ben, sans vous consulter, en fait, vous êtes très intéressé par les équipes qui viennent de se faire sortir ou qui étaient sur le point de se faire sortir au moment où vous avez envoyé la question, donc il y en aura pas mal là-dessus. Et puis après, des questions cool, même qui n'ont rien à voir avec l'actualité, qui sont toujours sympas à lire. Et j'en profite encore pour vous remercier, parce qu'à chaque fois, quasiment dans tous vos messages, il y a plein de bienveillance, d'encouragement, de remerciements. Et voilà, c'est nous qui vous remercions, parce que vous nous dites souvent qu'on vous accompagne le matin, le soir et tout, mais c'est grâce à vous qu'on continue de faire ça et qu'on y prend beaucoup de plaisir. Voilà. Alors, on va commencer les questions, Théo, puisque maintenant, ouais. j'ai vu que tu aimais bien avoir la surprise des questions et plus être spoilé avant, tu vois. Donc on remet ça comme ça cette semaine.
pour tout vous dire, ouais. j'ai râlé aussi dans notre chat personnel parce que quelqu'un m'a spoilé le résultat du match d'hier que j'étais en train de regarder. Mais c'est plus que 5 minutes avant de faire le CQFR avec Shai quand on m'a donné le résultat. Donc c'est
en témoignage. Ton message s'est terminé par 3 petits points en mode passif-agressif comme LeBron James. C'était.
C'est clair.
Genre, il me restait 5 minutes de match, bon sang, 3 petits points, voilà. Allez. On commence avec vos questions, du coup. Première question qui nous vient de Christophe, qui nous dit « Bonjour à l'équipe Rivers, merci pour le suivi de ces playoffs et tout ce travail de qualité mené quotidiennement. Je voudrais ouvrir le dossier Joel Embiid. » Alors, il nous l'a envoyé juste avant le match de la nuit précédente, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. « Quelle que soit l'issue de la série contre les Knicks, j'ai le sentiment que ces playoffs marquent un tournant dans la perception qu'a le public de Big Joel. Il est maintenant tourné en vilain par toute une partie des médias. De mon point de vue, c'est un personnage complexe et ambivalent, capable à la fois de gestes dirty et d'un comportement de pleureuse, de dire oui mais non à l'équipe de France, d'assumer ses responsabilités pour tout d'un coup disparaître et jeter ses coéquipiers sous le bus, d'être à la fois admiré et détesté, parfois par les mêmes personnes, et d'être attachant et énervant. J'ai donc plusieurs questions. À titre personnel, quel est votre ressenti sur ce joueur? Pensez-vous qu'il a le leadership nécessaire pour un jour aller au titre? Et enfin, d'une façon plus générale, pensez-vous que dans la NBA moderne, on puisse encore bâtir une équipe autour d'un vilain pour aller au bout?
Super intéressantes ces questions. Je vais commencer par... Alors, ce n'était pas une des questions, mais c'était dans son paragraphe, dans son préambule. Moi aussi, j'ai l'impression que ça marque un tournant, en fait, dans la carrière de Joel Embiid, ses playoffs. Mais à l'inverse de ce qui a l'air d'être sous-entendu, moi, je pense que c'est un tournant positif, en fait. Parce que dans cette série de playoffs, il a été indiscutablement... au niveau auquel on l'attendait. Il a même été au-dessus du niveau auquel on l'attendait. Alors certes, son équipe n'est pas passée, n'a pas réussi l'upset, n'a pas réussi à passer l'obstacle que représentait New York, mais j'ai l'impression que c'est peut-être sa meilleure campagne, en fait, paradoxalement, en play-off sur une série. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Shai. Moi, je l'ai trouvé injouable, en fait. J'ai trouvé incroyable. Et tu sais, si on n'avait pas su qu'il était blessé, j'aurais quand même dit qu'il était incroyable. C'est à part peut-être la fin du match, finalement, du match 5, mais qui est gagné par Philadelphie, où j'ai l'impression qu'il n'avait plus du tout les ressources. Il était un peu cuit, mais j'ai trouvé excellent dans ces playoffs.
Sportivement, c'est assez indiscutable. Il fait sa meilleure campagne de playoffs. Il a eu des difficultés par le passé en playoffs. Souvent, on attribuait ça au fait qu'il arrivait à diminuer. Il y avait toujours un problème. Hein. C'est pas de sa faute, mais un coup le nez cassé, un coup le genou diminué. Et direct dans la foulée, ça se traduisait par des playoffs compliqués, voire très très décevants, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même le seul MVP de l'histoire qui n'a toujours pas atteint les finales de conférence. On lui souhaite d'y arriver. Sportivement, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un tournant, peut-être un tournant en tout cas, parce qu'il a totalement assumé. Il n'avait aucune co-star, même s'il est quand même une star qui monte en NBA. Et il a assumé en attaque, en défense, malgré le souci physique qu'il avait. Et ça, c'est assez indiscutable. Il est tombé sur une équipe. Il est peut-être tombé sur la mauvaise équipe aussi. Parce que je me dis qu'avec le niveau qu'il avait et contre une équipe moins tenace et qui avait vraiment décidé de se concentrer sur lui... ça aurait peut-être pu passer autrement. Là, c'était peut-être pas le meilleur adversaire. Par contre, bah, sur le sur le côté extra-sportif ou perception des gens, ouais, alors ça marque aussi un tournant, mais là, je ne sais pas si c'est positif, par contre. Avant, on se disait juste, bah, c'est le gars plutôt sympa. Il avait toute une période aussi où il était même franchement drôle sur les réseaux, en dehors, c'était un personnage plutôt bien aimé. Là, juste avant cette campagne de playoff, il y avait quand même l'histoire de l'équipe de France, donc le public français, bon, voilà. Et là, même aux États-Unis, commence à se mettre des gens à dos parce qu'il y a le côté à chercher les fautes, à se plaindre, puis à répondre avec des gestes un peu dirty, comme nous le disait Christophe. Et ça, c'est un peu moins appréciable. Après, sur le ressenti personnel, puisqu'il nous le demande, je trouve le joueur incroyable, parce qu'il y a des réminiscences de joueurs du passé, un peu sur le footwork, le côté Hakim, un peu. Et en même temps, du coup, le côté moderne, parce qu'il est capable de jouer plus loin du panier que ces joueurs-là. Et sur l'extra-sportif, bah oui, je ne vais pas cacher que voilà, parfois son comportement peut m'agacer un peu. Le mec me pose aucun problème, je le trouve plutôt franchement sympathique et intéressant. Son parcours est intéressant aussi. Mais voilà, sur la personnalité et le style de jeu en lui-même, c'est un petit peu moins ma tasse de thé maintenant qu'à une époque.
Ouais, je comprends ce que tu dis. Effectivement, il faut dissocier en fait finalement le niveau de basket et puis la perception du personnage. Moi, comme toi, jusqu'à présent, j'avais pas de problème avec Joel Embiid en tant que personne. C'était surtout ses limites ou du moins celles qui apparaissaient en playoff que je trouvais compliquées. Là, à nouveau, finalement, il a été diminué physiquement, mais par contre, il a largement tenu sa place. Voilà, encore une fois sur le côté basket, j'ai trouvé exemplaire. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment déplu finalement dans cette série face à New York, c'est, je reviens dessus, on en avait pas mal parlé dans le CQFR, mais
Geste
le
sur Mitchell
mauvais geste sur
Robinson.
Mitchell Robinson, ça je trouve que ça a pas sa place en fait sur un terrain du tout. Et honnêtement, il y a un moment, je me posais la question, même en regardant le dernier match, où je me demandais quand même si les joueurs des Sixers connaissaient ce qu'il y avait dans le code de jeu. Parce que le nombre de fois, il y a au moins deux ou trois fois, et Joel Embiid en tête, mais Nick Nurse aussi, quoi, où ils sont prêts à se rouler par terre auprès des arbitres en disant « Mais il n'y a pas faute, comment? Mais c'est un scandale !» Tu vois le ralenti, il met une tartine dans la tête de Jalen Brunson hier, enfin dans le match de la nuit de jeudi à vendredi, il en met une dans la tête d'Hartenstein. Je veux dire, enfin, pour moi, c'est même pas discutable, en fait. Il y a un coup qui a été mis, peut-être que tu as voulu le mettre, peut-être que tu n'as pas voulu le mettre. Dans tous les cas, il a été porté. C'est faute et c'est tout. Et moi, ça, j'ai trouvé ça effectivement fatigant de la part de Joel Embiid. Je l'ai trouvé, mais c'est logique, hein, je l'ai trouvé à cran, en fait, pendant toute cette série. Vraiment, bah, parce qu'il est diminué, parce qu'il sait que c'est encore une saison de son prime qui aura servi à rien, au bout du compte. Il était vraiment pas serein. Il y avait beaucoup en jeu quand même pour lui comme pour la franchise. Et c'est vrai que ça me laisse un mauvais goût en bouche malgré tout, parce qu'il y a un peu un côté mauvais perdant. Alors, je peux comprendre, hein, moi, je suis premier à détester perdre, mais là j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de mauvaise foi et des gestes que voilà, que j'ai vraiment pas apprécié, qui sont pas pour moi de la dureté en fait. C'est autre chose. Toi-même finalement. Le coup, à un moment, il y a, comment dire, Brunson qui descend dans la raquette, il lui met un coup d'épaule au visage. J'ai pas tant de problèmes que ça avec ce geste. Par contre, ouais, choper Mitchell Robinson qui est en l'air, l'attraper par la jambe, ça, je peux pas.
Et il y a la question du leadership, du coup, que nous demandait Christophe, et là-dessus, j'ai toujours pas la réponse parce que j'ai pas l'impression qu'il incarne vraiment le leader. Alors, par le niveau de jeu, c'est évidemment un leader, mais ça peut se poser de la même manière qu'un Kevin Durant, tu sais, où tu as l'impression que parfois ils sont un peu détachés. Parfois, il y a des reproches ici et là. Embiid l'a fait par le passé. Hein. Il était dans le bus avec Doc Rivers et le reste de la franchise pour mettre Ben Simmons en dessous,
C'est clair.
clairement. Alors après, il dit que ça a été mal compris, mal interprété, tout ça. Je veux bien croire hein, aussi, c'est pareil. Mais il dégage pas ce que. Il y a
Ses
différentes formes de
excuses.
leadership. Mais là, c'est pas le leadership qui me paraît très très constructif. Il a le leadership par l'exemple du niveau de jeu. En dehors, je suis moins certain.
C'est une question de toute façon qui revient assez fréquemment. Moi, je pense aussi que finalement, le leadership, c'est extrêmement important, mais parfois on en fait trop, dans le sens où ce qui est important, c'est qu'il y ait des leaders au sein d'une équipe et que ces leaders aient une place, en fait. Et si je prends l'exemple, par exemple, du Miami Heat, c'est pas pour faire une fixation sur cette équipe, mais jusqu'à l'année passée, il était indubitable que Udonis Haslem était un des leaders de l'équipe, alors qu'il passait pas une seule seconde sur le parquet quasiment, ou du moins jamais dans des moments importants. Et finalement, bon, bah. L'équipe fonctionnait. Pour moi, c'est une équipe qui fonctionne. Donc, est-ce que, de la même manière, je pense pas que Kobe Bryant ait été un leader extraordinaire, du moins pas pendant une bonne partie de sa carrière. Ça n'empêche pas, ça l'a pas empêché d'être champion, ça l'a pas empêché d'être fort, d'être même vénéré, même avant sa disparition tragique. Donc voilà, la question, c'est il faut qu'il y ait des leaders dans une équipe. Et c'est vrai que bon, là, par contre, on peut se poser la question de savoir qui est le leader. Je pense que Tyrese Maxey est quand même une bouffée de fraîcheur, une bouffée d'air frais, pardon, pour cette équipe des Sixers, qui a quand même toujours globalement le sourire aux lèvres, même si lui aussi, il aimerait avoir des coups de sifflet par-ci par-là. Tu sens qu'il passe vite à autre chose. Mais c'est une question qui sera à réfléchir du côté des Sixers pour la suite. Je suis curieux de savoir ce que va apporter l'intersaison, parce qu'en fait, elle est hyper paradoxale cette saison, Shai, et je me demande ce que tu en penses, mais pour les Sixers, parce qu'au bout du compte, tu dis, bon, bah, ils sortent au premier tour, c'est un échec, c'est une équipe qui joue le titre ou rien, et en même temps, comme on l'a dit à plusieurs reprises, moi, en début d'année, j'imaginais pas du tout un tel scénario pour cette équipe de Philadelphie, qui, tant qu'elle a été au complet, était très bonne. Elle a été la greffe de Nick Nurse a très bien pris. Il a réussi à impliquer Joel Embiid notamment dans le jeu collectif comme ça n'avait jamais été le cas les saisons précédentes. Je parle en termes de son passing game et de sa capacité à partager le ballon. Et c'était intéressant dans ces playoffs parce que même quand les matchs n'étaient pas pliés, il a continué à faire jouer le collectif. Même dans ce match, le dernier match à Philadelphie, il y a des moments bien sûr il demande la balle, il est tellement injouable qu'il joue 5 contre 1, mais il y a des moments où il remet la balle en jeu, la balle recircule à nouveau. Moi, ça, je trouve que c'est des signaux qui sont très forts pour l'avenir de cette équipe des Sixers qui cet été peut faire pas mal de choses au bout du compte. Il y a un joueur, je sais pas si c'est peut-être, je sais pas si qu'on en parle, Shai, mais il y a un joueur qui sera peut-être sorti au moment où vous verrez ces QFR qui serait sans doute parfait pour cette équipe de Philadelphie. Je pense à Paul George, bien évidemment, dont on parle beaucoup dans les rumeurs. Voilà, il y a pas mal de choses à faire cet été du côté des Sixers.
Moi, je pense qu'ils se sont dans tous les cas offert un an de plus sans que Joel Embiid, enfin en tout cas quelques mois de plus sans que Joel Embiid demande son trade. Il y avait quand même cette menace latente et ça faisait partie des raisons pour lesquelles leur début de saison était étonnant. C'est que on guettait le moindre signal. Bon, il y a Harden qui était parti, on guettait le moindre signal de non-compétitivité avec Embiid qui demanderait son trade. Et au final, ça a très très bien marché. Avant sa blessure, et je pense qu'il était sur une autoroute pour être MVP tellement il était fort. Donc, il a pu voir qu'avec Nurse, ça marchait bien, que Tyrese Maxey progressait, qu'ils avaient fait venir des joueurs qui étaient compatibles autour. Buddy Hield, normalement, ce qu'il apporte, c'est censé être très compatible, ils en avaient besoin. Donc, peut-être que si le projet lui est vendu comme ça, c'est-à-dire on reprend les mêmes, t'es pas blessé et on améliore l'équipe. Alors, oui, évidemment, si tu fais Paul George, ça change beaucoup de choses, mais je pense au moins qu'ils se sont offert un peu de répit et c'était déjà pas gagné, honnêtement. Donc ouais, c'est Philadelphie, l'intersaison va être intéressante. J'espère qu'on va pas dire tout ça pour que derrière Embiid nous dise oh bah finalement j'ai quand même envie de partir, c'est pas assez compétitif. Je vais sur 30, il doit avoir 30 ans d'ailleurs, j'ai déjà 30 ans. On voit que le physique est un peu précaire, c'est-à-dire qu'il y a souvent des pépins. Donc je mettrai pas ma main à couper non plus qui demandera pas son trade, mais voilà, on verra bien pendant l'intersaison. Ce sera une des équipes à suivre évidemment.
Carrément, j'essaie de je vérifier son, je
Ouais.
vérifie l'âge de Joel Embiid,
30 ans,
effectivement, parce
non?
que je vois plus les joueurs vieillir. Moi. 30 ans pile, ouais,
Ah,
effectivement,
c'est
depuis
ça.
le 16 mars.
C'est ça. Alors, il a pas joué ses deux premières saisons, donc en termes de kilométrage, ça va. Mais ça n'en est pas moins un joueur qui se blesse beaucoup, donc faut être prudent avec ça.
Carrément.
Deuxième question qui nous vient de Caio Cap. Je voudrais savoir comment vous regardez un match. Je ne demande pas si vous mangez des pizzas ou si vous vous endormez au troisième quart-temps, mais si vous avez une grille de lecture particulière, des aspects spécifiques du jeu que vous avez définis avant. Perso, je me dis parfois que je vais regarder le positionnement défensif de tel ou tel joueur ou la mise en place d'un système, mais je finis toujours par suivre le ballon comme Air Bud, le chien de mon voisin. Merci de sacrifier vos heures de sommeil pour sauver les nôtres. Alors, comment est-ce que tu regardes un match? Après, je sais que bah, toi, souvent, tu les regardes quand même tu regardes les résumés plus longs, par soit les all possession, soit. Mais quand tu regardes un match en entier, par exemple, qu'est-ce que tu regardes? Comment tu le regardes?
Ouais, c'est une très bonne question. Mais effectivement, alors déjà, moi, j'ai tendance à regarder les matchs de la nuit. Je les regarde rarement en direct. Je les regarde en différé, soit en intégralité quand j'ai le temps, que je me lève suffisamment tôt, soit effectivement en prenant l'option all possession qui permet de voir les temps faibles, notamment. C'est une bonne question. En fait, ma façon de regarder les matchs a vachement évolué aussi au fil du temps, au fil de, bah, de que ma compréhension du jeu se développait un petit peu. Maintenant, comment, ah, elle est compliquée cette question parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Effectivement, j'ai un regard Mon regard se pose souvent en premier sur la défense, en fait, sur le type de défense présentée. On sait que voilà, certaines équipes ont des identités défensives très fortes. Par exemple, j'en reviens encore une fois au 8 parce que c'est une des. Voilà, mais j'aurais pu citer les Raptors de l'époque Nick Nurse, où il y avait des changements de défense fréquents qui étaient assez facilement identifiables. À un moment, il y avait de la zone, à un moment, il y avait de la box plus 1, etc. Donc souvent, c'est quand même ça que je regarde. Et du coup, je regarde comment l'attaque s'adapte et j'essaye alors souvent là c'est par pour le côté sur les systèmes. C'est vrai que l'avantage de regarder en replay c'est que parfois quand je vois qu'il y a une forme de jeu qui manifestement était une forme de jeu, il m'arrive fréquemment de revenir en arrière pour voir vraiment ce qui s'est passé.
C'est l'œil du coach un peu ça. Ça me fait penser à mon ami Ghislain qui écrit parfois aussi sur le site et tout. Vu que vous avez quand même un background de coach, vous analysez vraiment, vous regardez comme des coachs. C'est-à-dire que, et même toi, quand tu m'envoies des messages parfois, je me souviens que c'était pendant je pense que c'était pendant le tournoi universitaire féminin, les premiers trucs que tu remarquais, c'était sur la défense directe, tu vois, sur
Oui.
les systèmes défensifs et tout ça. C'est intéressant, mais je pense que ça part voilà, de qui tu es aussi au basket, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, mais non, mais t'as raison. En fait, ça, par exemple, c'est pas une réflexion que j'avais forcément il y a 15 ans. Toi, je t'aurais pas dit la même chose. Mais en fait, ça m'arrive de revenir en arrière pour essayer de comprendre si quelqu'un a marqué, qu'est-ce qui a été fait en fait, et essayer de voir si une erreur de la défense me manifeste, une mauvaise communication, quelqu'un qui a été pris dans un écran ou ce genre de choses. Et si c'est le cas, pourquoi en fait? Et du coup, voilà, il y a des équipes que j'adore. Moi, j'adore regarder les Nuggets. C'est pas un secret parce qu'effectivement, dans leur forme de jeu, en fait, il y a. Tu sais, quand tu les regardes jouer, tout est fluide. Tu dis, tiens, c'est Jokic, il met la balle ci, la balle là. En fait, il y a des tas de principes qui sont mis en place, qui ne sont pas forcément appelés comme des systèmes à l'ancienne où tu avais le meneur qui arrivait et qui indiquait telle chose. Et en fait, ce qui est super intéressant, mais on pourrait le dire de d'autres équipes, mais c'est l'exemple de Denver qui me vient en tête, c'est les variations, en fait, et notamment sur une entrée de jeu très simple, du moins hyper commune, comme Korn, où tu as deux grands, en fait, qui viennent porter, ils sont dans le prolongement, en gros, des lignes de la raquette. Ils viennent se présenter soit pour faire porter un écran, soit pour jouer un main-à-main avec deux extérieurs qui se mettent dans les corners et puis le porteur de balle qui est dans l'axe. En fait, sur ce type, ce même lancement de jeu, il peut y avoir tout un tas de variations et qui sont assez passionnantes à observer quand on met le nez dedans. Je te parle des Nuggets tout simplement parce qu'ils en ont une que j'adore et que même avec moi, avec l'équipe amateur dont je m'occupe, qu'on a mis en place et qui fonctionne très bien, même si t'as pas Jokic, même si t'as pas voilà, Jamal Murray dans ton équipe, tu peux quand même prendre des choses. Donc c'est vrai que j'ai un regard maintenant qui est pas mal orienté sur quand même cet aspect stratégique. Et après, je suis hyper attentif. C'est pour ça que j'aime bien le résumé All Possessions là, parce que tu vois aussi les temps faibles et de voir comment une équipe a pu gérer un temps faible. Tu vois, est-ce que elle a vraiment subi? Est-ce qu'elle a réussi à quand même à faire le dos rond? Comment elle est repartie? Voilà, toutes ces choses-là sont vraiment intéressantes. Et puis là, il y a un petit peu aussi le côté, tu vois, comment dire, des formations professionnelles où ces trucs-là, tu regardes le match et tu dis, ah oui, effectivement, à la fin du deuxième quart-temps, là, il y a eu un 8-0 et tu les enregistres dans ta tête parce que tu es habitué à faire des récaps ou de toute façon, tu vas le faire dans ton récap. Donc finalement, même si je vais voir un match de Benjamin ou un match de U17 qui se joue avant le mien, bah, ces trucs-là, je les regarde de la même manière au bout du compte.
Ah, c'est marrant. Bah ouais, du coup, c'est forcément très très différent parce que alors, moi, par la force des choses, je regarde encore plus de live que de résumé. Donc j'aime bien le côté live et j'avoue que alors déjà parce que je me sens pas la compétence tactique, technique, ce que vous voulez, donc je suis moins dans l'analyse, dans le côté très analytique des matchs. Et souvent, je débranche un peu le cerveau et l'analyse et je regarde de façon un peu ouais, comme un spectateur, parfois comme un supporter, parce qu'on a invariablement, parfois on a des préférences. Et c'est qu'après, quand je me pose, que je réanalyse un peu ce qui s'est passé, que je lis aussi des choses à droite à gauche, que je me rends compte de ce qui s'est passé à certains moments, sur le plan tactique parfois aussi. Mais je suis plus. Alors, ce qui nous dit le côté Air Bud, le chien qui regarde comme ça, c'est pas à ce point-là, mais je suis très vite, je suis très dans le match. Sans m'intéresser assez froidement à ce qui se passe tactiquement, tu vois. Donc c'est,
Ça
mais bon,
m'arrive
je pense
aussi plein de
que,
fois.
ouais. Mais c'est, je pense que c'est aussi parce que, bah, je suis jamais vraiment dans l'analytique. J'adore quand je regardais avec des gens qui m'expliquent ce qui se passe, ce que je comprends pas. Tu vois, des trucs vraiment très précis. Je parle pas de trucs basiques. Je comprends évidemment les bases hein, quand je
Bien
regarde un
sûr.
match, mais quand je regarde un match avec quelqu'un qui est très très porté sur l'analyse ou bah, un coach ou quoi. Je trouve ça fascinant aussi parce que ça me permet de mieux comprendre des choses, quoi. Donc voilà, moi je les regarde essentiellement comme ça. Je dis débrancher le cerveau, j'exagère, mais Je ne suis pas non plus comme devant un match de foot. Ça m'arrive hein, de gueuler ou de râler sur des trucs ou de décoller du canapé. J'ai encore un peu ce côté-là, un peu dans l'émotion aussi, je pense.
Ouais, je vois, c'est intéressant. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu vois, ma façon de regarder les matchs maintenant, elle déborde aussi sur les aspects stratégiques dont je parlais. Mais moi, en fait, j'ai commencé à jouer au basket tard, à un moment où déjà tous les autres étaient meilleurs que moi techniquement, où les coachs n'avaient pas forcément du temps à m'accorder parce que voilà, ils s'occupaient de ceux qui étaient meilleurs. Et donc, moi, j'ai quasiment autant appris à jouer au basket en regardant du basket qu'en y jouant ou qu'en étant entraîné parce qu'en fait, je cherchais des réponses. Et par exemple, je me suis toujours, en fait, c'est un peu ce que je te disais d'un point de vue stratégique tout à l'heure. Je me le suis longtemps appliqué et ça reste un réflexe. Je me suis posé les mêmes questions sur la technique individuelle des joueurs. Je vais te donner l'exemple qu'a toujours, enfin, c'est celui qui me vient tout le temps en tête. C'est je me disais, mais pourquoi est-ce que Reggie Miller, quand il va vers sa droite, vers la ligne de fond et qu'il shoot, il tend sa jambe droite comme de cette manière-là, en fait. Et à chaque fois, ça rentre. Tu vois, c'est un exemple, mais c'est vraiment un exemple où je me suis posé la question et je me suis rendu compte, ah bah oui, parce qu'en fait, ça lui permet de réaligner complètement son épaule avec le cercle. Ça lui permet aussi, en sortant la jambe comme ça, de garder le défenseur à une distance qu'il va pas pouvoir franchir sous peine de venir faire faute. Ça lui permet, en fait, s'il est en train d'arriver de sa gauche vers sa droite, bah, de retrouver un équilibre aussi en l'air. Et tu vois, volonté ou ces interrogations, cette envie de comprendre que j'ai pu appliquer sur des aspects techniques dans une certaine mesure hein, à mon faible niveau, eh ben j'ai gardé ce réflexe en fait de regarder et de chercher à comprendre. Et tu vois, c'est un peu de la même manière. Alors, moi, je suis pas du tout un spécialiste de MMA. Souvent, on en parle avec Shai parce qu'on aime bien suivre ce qui se passe. Et c'est de la même manière que si je regarde, tu vois, un Israel Adesanya sur comment dire. Dans le stand-up, ou à l'inverse, un mec comme Khabib au sol, je comprends pas ce qui se passe, mais je peux pas m'empêcher de me demander, d'essayer de vouloir comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qui m'a poussé, c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage du MMA d'une certaine manière, à aller écouter les podcasts, à essayer de lire, de comprendre pourquoi il se passe ça, qu'est-ce qui se passe. Et finalement, bah, voilà, sur le basket, c'est ça en permanence.
Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien qu'on m'explique, en fait. J'aime bien rêver modestement sur un sport, une discipline, et que des gens pointus m'expliquent. Et j'aime bien aussi comprendre du coup ce qui se passe. Tu disais ça avec le MMA, ça me fait ça aussi avec le basket. C'est un peu la même chose.
Ouais, sur le MMA, je suis loin d'avoir compris
Non, mais moi aussi, je
grand
comprends pas.
chose. J'ai compris pour les.
En direct, je comprends pas ce qui se passe. D'ailleurs, c'est marrant, souvent quand il y a un KO, j'avais l'impression que c'était l'autre qui avait enclenché, alors que c'est souvent un contre. Et j'ai besoin de revoir les images après ou qu'on m'explique comment l'autre a. Enfin, voilà, c'est un métier, c'est une expertise, hein. C'est comme
Ça.
ça.
Le truc que j'ai retenu surtout, c'est de ne jamais rentrer dans une cage qui risque d'être fermée quand vous êtes quelqu'un. C'est tout ce que j'ai
C'est
retenu
ça.
de moi.
C'est ça. Je pense que c'est un très bon enseignement, ouais. Question de Jules. Superbe débrief de ces matchs de playoff. On sent la passion qui vous anime. Vos matinales sont au top. Donc merci, Jules. Ma question, les Splash Brothers, Butler, Durant, James, Davis sont out. Harden, Leonard, George, Westbrook, Lillard, Antetokounmpo à un game d'être out. Alors ouais, c'était juste avant les matchs récents. Est-ce maintenant le changement, la nouvelle génération incarnée par les Edwards, Shai, Tatum, Brunson, Doncic, a-t-elle pris définitivement les commandes du vol NBA? Qu'est-ce que t'en penses, Théo?
Ben oui, je pense que c'est une réalité. Du moins, c'est marrant parce qu'il y avait une quote de. J'ai vu passer une quote cette semaine de Trae Young à qui on posait exactement la même question, qui disait ouais, mais enfin bon, méfiance quand même. Stephen Curry et LeBron, ils sont toujours là. Tu peux pas faire comme s'ils étaient enterrés. Tu peux pas les enterrer trop vite. Mais oui, je pense que c'est la nature des choses. Hein. Ces équipes-là sont sur le déclin. Il y a l'adage qui veut que voilà que personne n'a jamais battu le temps et qu'il y a un moment. Forcément, tes performances sportives reposent sur ton état de forme et que l'âge allant, ça peut pas. Il y a un moment où ça peut pas aller mieux. Je pense que oui, il y a une prise en un passage de bâton qui est en train de se faire. Ça veut pas dire que c'est mort forcément pour tous les joueurs que tu as cités, Shai, mais je pense que ça pourra pas se passer de la même manière que ça se passait jusque-là. Je pense que voilà, il y
Ouais,
a
c'est ça.
forcément.
Du coup, j'avais noté une autre question qui était similaire. Je vais la citer parce qu'elle était intéressante aussi de la part du petit Schlem, notre champion des emojis dans les sessions, qui nous disait donc pareil hein, que pour la première fois depuis 2005, il y aura ni LeBron ni Curry ni KD au second tour des playoffs. mais que lui, il entendait encore dire les Lakers avec LeBron et AD à 100%, ça vise le titre, que si t'entoures Curry, t'as forcément une chance de bague, que Durant est revenu aussi fort qu'avant sa blessure. Et donc, il dit, pour résumer, j'ai l'impression qu'on perçoit toujours ces trois légendes comme des superstars capables d'amener leur équipe au bout. Et il voulait savoir comment on se situait par rapport à cet avis-là, spécifiquement sur ces trois joueurs-là, je pense, parce que c'est ceux qui sont qui ont le plus eu cette étiquette de joueurs. De joueurs capables de faire gagner leur équipe en étant bien entourés, en fait.
Ouais, bah, alors pour KD, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, mais moi je pense que c'est dur, hein. C'est pas pour dire que KD est pas un joueur fort, qu'il n'est pas redoutable, mais je pense que le moment où il était vraiment une espèce de moteur à lui tout seul, tu sais, la série de playoffs face aux Bucks, le KD des Nets face aux Bucks, où ça se passe peut-être à un
Ouais.
orteil
Les fameux orteils,
pour
ouais.
les Nets de passer, je pense qu'on n'est plus à ce KD-là en fait. Et que lui tout seul, même lui accompagné, mais pas de la, ma d'une manière, pas de la meilleure manière comme c'était le cas des Suns, parce qu'il y avait du talent dans cette équipe, je pense que ça suffit plus. LeBron, c'est pareil, finalement, LeBron et AD, parce qu'ils étaient plutôt en forme durant ces playoffs, au bout du compte, c'était plutôt même.
Ils ont été très bons les deux, hein,
Ils ont été très bons les deux. Anthony Davis fait peut-être une de ses meilleures saisons régulières récentes là, en termes de nombre de matchs et de sa régularité dans le rendement. Voilà, je pense que là,
Alors.
c'est passé. Finalement, alors pour Stephen Curry, est-ce que. Je me pose encore la question pour Stephen Curry parce que finalement, je pense que y a tellement de choses qui sont allées. Tout ce qui pouvait aller de travers est allé de travers
Merci.
depuis 2 ans du côté des Warriors. Donc c'est dur de voir en fait ce qu'il est encore capable de faire. L'an dernier, il avait encore été très fort. Mais bon, la question se pose. En fait, la nuance aussi, c'est par rapport au jeu de Stephen Curry, parce qu'au bout du compte, la grosse différence, c'est que pour l'instant, et ça sera le cas l'an prochain, en fait, qu'il baisse de pied ou pas, les défenses seront obligées de le traiter de la même manière que s'il était Prime Curry. Et du coup, ça veut dire que déjà, lui tout seul, dès qu'il met un orteil sur le terrain, c'est déjà une attaque qui fonctionne quelque part, en fait, parce que
Ouais.
la peur de ce qu'il est capable de faire occupe l'intégralité de la défense adverse. Mais par contre, ce que cette saison a montré, c'est que dans une équipe dysfonctionnelle ou avec des problèmes, il suffisait plus à gommer les à tout gommer en saison régulière.
C'est ça, moi j'attendais encore le match, même avec ces galères que tu as évoquées et qui sont en fait rédhibitoires. Mais je me disais, il est encore capable de sortir un match à 50 points, de se sublimer presque. Et ça, voilà, je suis plus sûr qu'il ait vraiment la capacité de. Alors ponctuellement, ouais, c'est possible, mais si tout ne clique pas correctement, je ne sais pas s'il l'a encore. Donc ça va être, il va devoir nous le montrer. Et je serais ravi que. Mais tous ceux qu'on a cités d'ailleurs, hein, que KD montre qu'il est encore monstrueux, que LeBron et Anthony Davis, qui ont très bien joué, tu l'as dit, réussissent à reporter une équipe un peu plus haut. Mais on est vraiment, voilà, pour reprendre aussi la première question, je pense que là, le tournant, il est plus qu'amorcé avec tous les joueurs qu'on a cités. On va voir qui sera champion cette année, mais si c'est encore après Jokic et les Nuggets, si c'est un joueur comme d'une équipe de Boston, de OKC ou même des Knicks, hein, parce qu'il y avait Brunson qui était cité, ou Anthony Edwards, je pense que là, on sera définitivement passé à une autre époque, et je ne sais pas si un des trois monstres sacrés dont on a parlé là pourront encore gagner un titre. Mais bon.
Ouais, la question qui va se poser pour les trois, c'est de savoir comment ils veulent finir leur carrière aussi. Est-ce qu'ils veulent finir leur carrière avec un statut de monstre sacré,
Oui.
donc être l'option 1 ou au minimum 1B de leur équipe? Ou est-ce qu'ils choisiront pour l'un ou certains d'entre eux de faire une fin de carrière à la Ray Allen, qui a été l'option 1 de son ère? Je ne dis pas que Ray Allen a été au niveau de Kevin Durant, Stephen Curry ou LeBron dans sa carrière, mais finalement, il a réussi à gagner. D'autres titres, Ray Allen, en devenant simplement un élément d'un collectif. Et là, effectivement, toutes ses qualités lui ont permis d'être un élément déterminant en fait dans le succès des équipes dans lesquelles il a été. Je ne sais pas ce qu'il en sera de des trois joueurs qu'on a cités.
Ouais, et pour rebondir, du coup, toujours, alors cette fois-là, ça va porter un peu sur les questions dont je te parlais, où les gens se demandaient beaucoup ce qu'allaient faire les équipes qui avaient déçu, là, et qui étaient sorties rapidement. Question de Ghislain qui nous dit, donc petite question autour des Suns, avec le fiasco 4-0 au premier tour, que j'avais pas du tout vu venir personnellement, mais aussi avec un Bill payé très cher, avec une no-trade clause, un KD qui fait son âge malgré de bonnes performances individuelles, mais sans leadership, et un Devin Booker noyé dans un rôle de pseudo-meneur qui n'est pas le sien, quel avenir pour Phoenix selon vous, et surtout, que faire? Personnellement, je pense qu'après ce fiasco, j'appuierai sur le gros bouton rouge. J'ai du mal à voir ce même groupe se relever après un échec si grand, même avec un nouveau coaching staff. C'est pour ça que j'essaierai de trader le maximum en commençant par celui qui a la plus grosse cote, à savoir Devin Booker. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est pas l'opinion la plus populaire, Booker, hein? J'ai même entendu des gens parlait du fait qu'il fallait peut-être essayer de trader KD s'il n'était pas content et tout ça. Bradley Beal étant intradable, c'est compliqué. Est-ce que toi, tu penses que Devin Booker, en tant que franchise player, c'est... Enfin, pas c'est mort, parce qu'ils étaient en finale il n'y a pas longtemps et c'est encore un très bon joueur, mais à la place des Suns, qu'est-ce que tu ferais?
Je pense qu'ils sont foutus, les Suns. Non, mais c'est hyper dur. Ils sont dans une situation qui est inextricable. Parce qu'en fait, si tu veux avoir une chance de gagner et que tu veux bouger un des trois, tu dis, bon, bah faut que je bouge Bradley Beal. Sauf qu'il est imbougeable. Il est imbougeable parce qu'il a une no-trade clause. Donc déjà, il a un salaire de malade. Et en plus, il peut dire à tout le monde, non, bah, c'est bon, hein. Moi, je reste. Donc déjà, lui, tu peux pas. Kevin Durant, ça serait pour moi ma deuxième option, en fait. Mais le truc, c'est que tu sais très bien, même si KD est plus le KD qu'on a connu, que tu vas jamais récupérer en retour quelque chose qui sera équivalent à l'apport de Kevin Durant, finalement, dans ton équipe. Et du coup, ça mène au troisième, Devin Booker. Ou si tu lui dis, ouais, regarde, on va échanger KD contre, imagine, Andrew Wiggins et Kuminga, et puis, je sais pas, deux futurs tours de draft des Warriors. Attends, Devin Booker, il y a un moment où il va dire, bah non, moi je veux gagner, j'en ai rien à foutre de rebâtir pour dans 3 ans. Et donc, en fait, t'en viens à Devin Booker, et le problème, c'est que Devin Booker, des trois, c'est celui que tu veux garder. C'est le plus jeune, c'est le meilleur dans la NBA actuelle, je pense sur le rendement, en fait, mais c'est celui sur lequel tu peux encore bâtir. Et en fait, la question que je me pose pour les Suns, c'est je me demande s'ils sont pas condamnés à soit rester avec ce groupe-là, avec ce trio, et essayer de le renforcer comme ils peuvent, et prier pour que toutes les planètes s'alignent au moment des playoffs, soit carrément repartir de 0-0 et te dire, bah non, il faut qu'on fasse ce qu'ont fait les Nets, ce qu'ont fait OKC, faut qu'on récupère tous les choix de draft possibles en tradant nos trois gars, et même à la rigueur, bah c'est pas grave, on garde Bradley Beal, parce que de toute façon, alors on va le payer cher, mais faudra bien qu'on paye quelqu'un, on va récupérer tout ce qu'on peut pour KD et Devin Booker, mais avec un tout nouveau propriétaire qui est en place, qui s'est saigné pour avoir cette équipe et pour faire venir KD et Bradley Beal, ça m'étonnerait que ce soit la première option qui lui vienne en tête.
Non, mais c'est clair. Mais tout part finalement de. C'est pour ça que je dis que les GM, les proprios, ça, c'est très important. Hein. C'est pas juste des gens qui naviguent au-dessus. C'est que Matisse Thybulle, en arrivant, il est passé en mode full agressif et il a pris des décisions qui, sur l'instant, on se dit, waouh, c'est fort. Il fait Kevin Durant, regarde, il n'a pas le temps. Une demi-saison derrière, il fait Bradley Beal. Mais sur le coup, c'est impressionnant. C'est un move de businessman impressionnant. Mais la réflexion derrière, malheureusement, c'est-à-dire que. T'avais, le risque était hyper élevé. Si ça marche pas, tu es foutu. En fait, ta marge de manœuvre, elle est foutue. Donc, pour donner une note positive, peut-être pour les fans des Suns, tu l'as dit, c'est très peu probable que ce trio-là bouge. Il y a peut-être un scénario que je vois arriver, peut-être qui serait bon, mais il faut trouver le bon personnel. C'est-à-dire que s'ils trouvent un coach qui est capable je sais pas, de faire sortir un peu plus de ce groupe-là, enfin de ces trois-là, de les articuler d'une certaine manière, je ne sais pas, ou de les inspirer d'une manière différente, parce que Frank Vogel, tout bon coach qu'il est, c'est un bon tacticien, c'est un mec qui a été champion NBA il n'y a pas longtemps. À un moment, c'était considéré comme un prodige du coaching à Indiana, c'est-à-dire, le gars, ce n'est pas une pipe, quoi. Par contre, il n'a pas réussi à les inspirer, et les mecs se foutaient de lui dans le vestiaire quand il haussait le ton. Donc, ils vont devoir trouver un mec qui inspire le respect et la confiance, en plus de ne pas être un mauvais coach, donc c'est un package qu'il faut trouver. Et des ajustements autour, tout ce qu'ils ont perdu dans les différents trades et à cause du fait qu'il faut bien, il faut un équilibre financier aussi, ils vont devoir le récupérer avec des joueurs savamment trouvés, qui fitent bien avec les joueurs qui sont là. Donc c'est très compliqué, ça demande énormément de compétences déjà. Donc c'est là qu'on va voir si James Jones, qui est le GM, et Matisse Thybulle, que je soupçonne d'avoir un peu forcé la main à James Jones, qui avait fait jusque-là plutôt de très très bons choix depuis qu'il est GM. Je le soupçonne d'avoir été très interventionniste à la façon d'autres proprios de la ligue. J'ai l'impression que peut-être que s'il laisse James Jones travailler sans mettre de pression derrière, parce que tout le monde dit qu'Ishbia est vraiment hands on the job, quoi. Il veut tout faire. Je pense que c'est ça qui a causé la perte des Suns cette année. Et je pense que si James Jones, s'il le laisse retravailler, peut-être qu'il trouvera le coach adapté, les joueurs autour et une petite chance qu'il se passe quelque chose. Mais tu as raison, il faut que les planètes s'alignent, c'est-à-dire pas de blessure de l'un des trois et que ça fonctionne mieux quand ils jouent ensemble.
Ouais, non, c'est clair. Après, le coach, c'est Charles Barkley que je voyais dire que de toute façon, ni aux Lakers ni aux Suns, le problème, c'était pas le coach, dans le sens où Darvina, mais et le coach Jason, tu peux leur trouver des limites, mais c'est pour moi, c'est pas le problème principal. Le
Non.
problème principal de cette équipe des Suns, c'est elle est mal construite, parce que construite dans l'urgence et à coup de grands sacrifices, et que finalement, bah, ils n'ont pas suffisamment joué ensemble non plus. Parce que regarde, par exemple, Tyronn Lue avec les Clippers, qui avait demandé, quand James Harden est arrivé, c'était catastrophique. Les Clippers étaient nuls. Et Tyronn Lue a dit, non, mais donnez-moi 10 matchs. Il me faut 10 matchs pour que je vois ce que j'ai à peu près. Et finalement, il a eu ces 10 matchs pour pouvoir faire les ajustements qu'on fait qu'à un moment, on se demandait si les Clippers, d'ailleurs, vous le savez certainement mieux que nous, vu qu'on ne connaît pas le résultat du match, mais on se demandait si les Clippers ne pouvaient pas aller au bout à un moment, quoi. Là, finalement, j'ai l'impression que Vogel, il n'a pas eu ce luxe-là, en fait. Il en a eu un, puis deux, puis bah, c'était plus les mêmes deux, puis un moment trois, et après, ça repartait. Le mec, il peut pas. C'est pas de la magie non plus. Et c'est vrai que j'ai un peu souri quand même quand j'ai vu enfin, une phrase. Alors, c'est pas Kevin Durant qui l'a dite, hein, c'est toujours faut prendre avec des pincettes, mais qui laissait entendre que il s'était jamais senti à l'aise dans le schéma offensif proposé par Vogel. Et là, tu dis, écoute. T'as eu l'équipe que tu voulais, t'as les coéquipiers que tu voulais, bon, faut jouer au basket. Et je crois que t'es un hooper, bah, vas-y, va sur le terrain, ouf, t'es le couteau suisse ultime. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne en plus, quoi? Sinon, tu veux qu'on te donne le titre direct? Tu vois, il y a un moment, c'est fatigant aussi, quoi, ce genre de sortie. Enfin, c'est pas une sortie pour le coup, je remets en contexte. C'est
Oui,
pas
mais
lui qui l'a
c'est.
dit clairement, mais
Oui, c'est
si
ça,
c'est
on sait
avéré.
comment ça se passe. Quand ça sort comme ça dans un média sérieux comme The Athletic, c'est que c'est ou l'agent ou. Enfin, il y a tout qui est fait pour pas le nommer, pour pas qu'après ça fasse scandale, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il a dit ou qu'il pense, hein, sinon ça ne serait pas sorti comme ça n'a aucun intérêt, sinon. Autre question sur une équipe qui pour le coup est sortie. Alors, question de Sweet Charles qui commence par un petit hors-sujet. Ça y est, j'ai surmonté ma timidité et accosté Pierre Armand. Très cool, on va sûrement jouer au
Très
basket
bien.
ensemble. Et c'est sympa d'avoir quelqu'un dans mon entourage avec qui parler de temps en temps de cette passion de niche pour la NBA. Pierre Armand, que vous pouvez retrouver tous les dimanches avec Théo dans le Hoop Culture, un de nos rendez-vous à ne pas manquer. Donc c'est très bien. Si vous le croisez dans la rue à Marseille ou ailleurs, accostez-le, il adore ça. Vous serez peut-être sur son format du week-end aussi, les choses à retenir, n'hésitez pas. Donc ça, la question de Sweet Charles, j'y reviens. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que les Bucks n'atteindront pas leur objectif de titre cette année, bien vu. Pour ma part, je suis assez pessimiste pour l'avenir avec un Lillard de moins en moins fiable physiquement, Middleton qui ne l'a jamais été, Doc Rivers et ses limites, et Giannis qui a l'air d'être de plus en plus impatient. Quelle perspective pour cette équipe pour les 2-3 prochaines saisons? Un destin à la Suns ou à la Lakers? Qu'est-ce que tu penses des Bucks avec ce qu'on a vu là, qui sont donc sortis face aux Pacers dans les conditions que l'on connaît?
Bah écoute, je pense que c'est compliqué dans le. Enfin, il y a deux manières de voir le problème en fait. Tu peux voir le problème en disant il leur manquait le meilleur joueur, leur meilleur joueur, qui est l'un des 3, 4, je sais pas où est-ce qu'on peut le placer, au minimum 5
Très
meilleurs
haut.
joueurs actuels. Vous le mettez où vous voulez dans ce top. Donc c'est normal qu'on soit sorti et c'est pas faux. C'est pas faux. Donc tu peux te dire aussi, voilà, Doc Rivers, s'il arrive en cours de saison, il n'a pas pu mettre totalement sa patte sur le jeu de cette équipe. C'était trop compliqué comme situation. Donc l'an prochain, ça sera forcément mieux. Et j'entends aussi cet argument. Le problème et l'avantage à Milwaukee, c'est qu'il n'y aura pas de changement en fait. Le coach, il va rester. Les joueurs, je serais hyper étonné que ça bouge en fait, parce qu'ils sont voilà, ils coûtent trop cher et ils sont déjà trop donnés pour les récupérer. On sait que quand tu t'en sépares, tu récupères jamais ce qu'il faut en retour. Donc je pense que l'avantage, c'est qu'il y a peut-être pas tant de questions que ça à se poser pour Milwaukee cet été. Voilà, et Giannis, il voulait un nouveau coéquipier, ben, il l'a eu. Il voulait un nouveau coach, il l'a eu. Maintenant, faut jouer et puis on verra où ça nous mène. Par contre, là où je suis un peu plus frileux du côté des Bucks, effectivement, c'est que ouais, moi je vais en revenir quand même. Non, deux choses. C'est que c'est une équipe qui est vieillissante. Ça, c'est la première chose. Brook Lopez, même s'il a été très bon là sur cette série playoff, bah, c'est plus Brook Lopez non plus qu'on a connu. C'est vrai pour pas mal d'autres joueurs. Il y a des joueurs qui stagnent aussi. Tu vois, j'adore Pat Connaughton, mais il stagne en fait. Tu vois, il n'y a pas vraiment d'évolution. Tu sais ce qu'il va t'apporter chaque soir, mais finalement, il n'y a pas de gros upside. Il y a des joueurs qui étaient très jeunes, là, comme Beauchamp. Beauchamp, hein, c'est ça. Hein.
Marjane Beauchamp, ouais.
Marjane Beauchamp, finalement, c'est toujours pas ce qu'il vaut, ce jeune. Est-ce que c'est vraiment potentiellement un style de la draft, ou est-ce que c'est juste un joueur de rotation marginal qui va disparaître? On n'en sait rien. Donc tout va reposer sur un trio qui est plutôt jeune, même Giannis, qui est parfois, voire souvent blessé, mais qui est s'il est à 100%, c'est l'une des jeunes, enfin parmi les superstars, c'est une de celles qui, on le sait, il peut faire passer un cap à son équipe, il peut gommer tout un tas de défauts en attaque, en défense, des deux côtés du terrain. Il a cette capacité, même sur toute une série de playoffs, voire sur des playoffs complets, à hausser monstrueusement son niveau de jeu. Ça, c'est le, voilà, c'est l'atout majeur de cette équipe de Milwaukee. Après, j'ai envie de dire, y a la question, c'est est-ce qu'on pense que Damien Lillard est encore capable d'être Damien Lillard toute une saison? Et est-ce qu'on pense que Doc Rivers est le meilleur homme pour faire fonctionner tout ça? Je pense que ça repose beaucoup là-dessus.
C'est
parce
clair.
Que, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Charles, mais c'est,
ça, ça,
ça,
va être
ça repose,
la clé.
quoi.
Ça va être la clé, Lillard, parce que tu as raison, il y a plein de choses qui font qu'ils peuvent se dire, allez, on repart à la rentrée, on n'aura ni Giannis ni Lillard blessé. Lillard, il a eu ses problèmes personnels, il a dit que c'était une acclimatation compliquée. J'espère pour lui que tout sera réglé sur le plan personnel à la rentrée. Et, ils peuvent se dire effectivement que Doc Rivers a récupéré, il ne s'est pas privé de le dire d'ailleurs, hein, une situation compliquée sur laquelle il n'a pas pu avoir tout l'impact qu'il aimerait avoir. On sait que c'est un gars qui a été GM, donc je pense qu'il aimerait bien avoir un peu voix au chapitre sur les joueurs qu'il récupérera. Il y a plein de choses qui font que c'est possible. Mais après, on peut aussi être dans la culture de l'excuse et dire ah bah, ça, on n'est pas allé, on n'a pas avancé au deuxième tour parce que ça, parce que ça, parce que ça. Sauf qu'il faut se rappeler qu'avant l'arrivée de Doc Rivers, et avant les blessures de Giannis, de Lillard, ça marchait pas incroyablement bien non plus. Défensivement, on n'a jamais retrouvé le niveau de cette équipe de quand il y avait Jrue Holiday.
Et Budenholzer.
Avec Adrian Griffin, il y avait d'autres problèmes, hein, dans le relationnel. Dans cette utilisation, dans ces préceptes défensifs, c'était compliqué. Et avec Doc, il y a eu des bons passages, mais rien de transcendant non plus. Donc, je suis sceptique. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de mystère et de suspense. Ça va être Giannis, Lillard. Middleton aussi est une autre intrigue parce qu'il a souvent été blessé et qu'on ne sait pas s'il va revenir vraiment pleinement fiable sur une saison entière. Donc, mais ils peuvent dire, ils peuvent vendre ça aux fans en disant, regardez, tout le monde va arriver à fond. On a un coach qui a été champion. On a ceci, cela, et ça va fonctionner. Ils ne sont pas dans le même type de bourbier que les Suns qui... ont pris un 4-0, quoi, qui n'ont jamais rien montré sous cette version-là, alors que les Bucks peuvent dire, bah, écoutez, avec Giannis, on était champion, Lillard, c'est un mec qui est en finale de conférence, il avait des soucis, Doc Rivers, il a été champion, ils ont de quoi dire à leurs fans, hein, vous inquiétez pas, ça va revenir, on peut faire peut-être comme les Warriors à l'époque, qui laissent passer 2-3 saisons où ça va pas, et boum, on regagne un titre, quoi. Donc je m'attends pas, voilà, si c'est pour répondre à la question, je m'attends pas à des changements du côté des Bucks, et même si moi je suis plutôt pessimiste, je comprends qu'on puisse aborder la situation comme ça.
Voilà. Est-ce que je continue vraiment de ne pas comprendre finalement, c'est le timing du renvoi d'Adrian Griffin et et l'embauche de Doc Rivers pour autant d'années. On en revient tout le temps à ça parce qu'en fait, je me dis, finalement, ils sortent au premier tour, donc c'est catastrophique par rapport aux ambitions de cette équipe. C'est exactement les mêmes résultats que l'an dernier. Je vais le dire de manière froide, mais je pense pas qu'Adrian Griffin aurait fait pire, en fait. Bah dans non, le sens où c'est pas la faute de Doc Rivers, mais je pense qu'Adrian Griffin n'aurait pas fait pire. Et en attendant ne serait-ce que l'été, bah, tu pouvais t'ouvrir d'autres options. Là, j'ai vu qu'on parlait de rumeurs autour de Los Angeles et de coachs qui pourraient venir coacher Los Angeles. Parmi les rumeurs, enfin, le nom de Tyronn Lue sort, par exemple. Aujourd'hui, tu préfères avoir Tyronn Lue comme coach ou Doc Rivers, par exemple?
Ah, il n'y a pas photo.
Pour trouver des solutions avec une équipe qui est souvent blessée, trouver voilà, tout un tas de solutions tout au long de l'année. Et je parle de Tyronn Lue, mais il y en a d'autres. Et limite, même si tu prends Doc Rivers, c'est pas honteux, Doc Rivers. On va croire que je fais une fixette sur lui. Je dis pas que c'est un coach exécrable. Simplement, est-ce que tu étais obligé de lui filer 50 contrats? C'est ça qui est dingue, en fait. C'est tout ça mis bout à bout que je continue de ne pas comprendre. Ce qui est sûr, c'est que je pense que... Enfin, je vais dire un truc, mais en fait, c'est faux. J'allais dire, c'est que Giannis ne peut pas demander son trade parce qu'il a eu tout ce qu'il a exigé, mais on a vu d'autres stars
si,
qui
ne
sont pas
oui.
privés, malgré tout. Mais ouais, disons que je trouve que... Autant j'avais compris le trade pour Damien Lillard, même si tu disais, bah non, tu vas trop perdre par rapport à ce qu'apportait Jrue Holiday. Je disais, bon, bah, au moins là, à court terme, tu as gagné. Ce que tu voulais, c'était que Giannis signe une extension. Donc il est venu, Lillard, il a signé une extension. Et je pensais que ça leur redonnerait un petit peu de temps pour voir la suite. Manifestement pas. Peut-être qu'il a mis une pression encore plus dingue. Je sais pas. En tout cas, comme toi, je suis pas super optimiste pour dans la capacité des Bucks à être champion à court terme.
Ce que je comprends pas, moi, dans ce que tu disais, je comprends pas le timing et tout ça. Ce que je comprends pas, c'est que jusqu'à présent, John Horst, qui est le général manager, il a été très bon depuis qu'il est en place. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a eu un manque de leadership à un moment au sein de la franchise. Parce qu'ils ont laissé Giannis prendre. Je sais pas s'il a pris les décisions à proprement parler. Hein. Il a aussi gagné le droit d'avoir voix au chapitre. Ça, c'est pas le souci. Mais le fait que Doc Rivers était conseiller, plus ou moins conseiller d'Adrian Griffin et de la direction, et que Doc Rivers est probablement conseillé à la direction d'embaucher Doc Rivers, c'est un manque de. Enfin, je sais pas de quoi, mais de jugeote. Évidemment que le gars, il a peut-être potentiellement miné le terrain de l'autre qui avait déjà pas besoin de ça parce qu'il galérait dans le relationnel avec ses joueurs majeurs. Donc je comprends pas là. Il y a une absence de leadership à un moment qui avait pas, ça avait pas été le cas avec Horst depuis qu'il est là. Ils ont quand même été champions. Et puis Doc Rivers qui arrive et qui dit bah je viens ouais mais seulement si je prends 5 années de contrat. Mais pourquoi? Enfin voilà. Bon de toute façon. On y reviendra pendant l'intersaison probablement hein, sur ce que feront chacun. Et Doc Rivers, il a par la force des choses gagné le droit de prouver qu'il peut sur une saison entière faire de cette équipe un vrai vrai contender, ce qu'elle devrait être, parce que t'as quand même un axe Lillard dans Antetokounmpo. Enfin c'est sur le papier c'est quand même fou. Donc on verra pour les Bucks.
Ouais.
Question suivante qui nous vient d'Olivier. Olivier qui nous dit. Question d'un fan des Bulls depuis 1989 qui pleure toujours la blessure de D-Rose ainsi que son adolescence très longue à travers le maillot rouge et ses 6 titres. Je transférerai personnellement Lavine, Caruso, Vucevic et laisserai partir DeRozan pour rebâtir via la draft. Et vous, qu'est-ce que vous feriez pour Chicago?
Moi, je peux changer juste... le management ou pas? Ouais. Commencer par
ça fait pas si longtemps que ça que Karnisovas est là et les choix ont pour l'instant été un peu audacieux aussi parce que ça a été agressif dans un premier temps.
En fait, et c'était après, audacieux au début et après, il n'y en a plus quoi.
Ouais, c'est ça. On ne bouge plus. Ouais. Mais moi ce que je note, c'est que là, la reconstruction que souhaite Olivier, je la comprends parce qu'on a tous envie de se dire il faut rebâtir via la draft, mais si je dis pas de bêtises, et c'est là qu'Antoine nous serait fort utile, il l'est toujours, hein, Antoine, hein, qu'on embrasse, mais c'est sur le côté, sur les choix de draft que chaque équipe a, parce que si je dis pas de bêtises, les Bulls ont leur premier tour cette année, enfin ils avaient leur premier tour, ouais. Ils ont leur premier tour là pour 2024, mais ils l'ont pas pour 2025. Ils ont rien, il me semble, en 2025. Or, si tu veux rebâtir, c'est bien d'avoir quelqu'un en ligne de mire, au hasard, Cooper Flagg, par exemple. Et je sais pas, ils vont peut-être devoir œuvrer pour récupérer des tours de draft. Donc la reconstruction, elle ne sera pas du très court terme où on fait une année ou deux de tanking et derrière, on récupère une superstar et on part. Donc ce que je ferais personnellement, dans tous les cas, je séparerais Lavine, Vucevic et DeRozan. Je ne sais pas de quelle manière ni lequel garder. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. DeRozan, il sera en fin de carrière, il a peut-être besoin d'aller... tenter quelque chose ailleurs. Lavine, on ne sait pas. Peut-être paradoxalement, je garderais peut-être plus Lavine en tant qu'option numéro 1 au scoring et après construire autour. Mais parce que dans ces bonnes périodes, je l'ai beaucoup aimé. Pour le reste, je ne sais pas. Vucevic, dans une équipe pas compétitive, ça n'a pas grand intérêt. Caruso non plus, c'est un mec qui est taillé pour être le mort de faim d'une équipe qui joue le titre. Donc je suis complètement dans l'interrogation. Je sais juste que ça va être compliqué de faire full tanking là dès cette année, quoi.
C'est ouais, surtout c'est, j'ai l'impression que effectivement il faut tout éclater, je pense qu'il faut quand même repartir.
Bah ouais.
Mais tu te dis c'est limite 2 ans trop tard, non? Enfin je sais pas ce que t'en penses, parce que ça c'est ce qu'il aurait fallu faire quand tous ces joueurs là avaient encore le maximum de valeur, parce que si je me trompe pas, même DeMar DeRozan, il est pas free agent cet été en fait.
Je vais te dire tout de suite parce que je me mélange entre les années.
Ouais, parce que j'ai l'impression que là, c'était sa dernière. Je regarde aussi en même temps que toi.
Si, il est free agent, ouais.
Il est free agent. Donc, déjà, DeRozan, tu peux pas le trader en fait. Il va partir. Ouais. Soit tu le re-signes, soit il part en fait. Donc, t'as pas d'autre option. Sachant que ça peut être une option de le re-signer justement pour pouvoir au moins l'échanger derrière si jamais tu veux pas le garder. Mais là, il était à 28 millions de dollars cette saison. Lavine est sous contrat jusqu'à fin 2026-2027.
Ouais,
avec un contrat qui monte jusqu'à 48 millions l'année, et Vucevic a prolongé en 2026. Début de saison, voilà, 2026. Donc effectivement, tu as des pièces à échanger. Le problème aussi de Chicago, un des joueurs les plus clivants aussi, même presque de la NBA, c'est Patrick Williams, parce qu'ils ont beaucoup misé aussi sur son évolution, sur son émergence. Moi, j'ai jamais été fan ou j'ai jamais très bien compris pourquoi il y avait autant d'optimisme autour du fait qu'il devienne monstrueux. Et là, il était free agent cet été. Enfin, il est free agent cet été. Son agent a laissé entendre qu'il avait demandé le max du max, demandé à ce qu'une équipe se saigne pour lui. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Finalement, j'ai l'impression que c'est presque déjà trop tard pour que Chicago puisse, de manière effective, se reconstruire rapidement.
Bah oui, et puis il faut, quand il y a une reconstruction, il faut soit avoir un joueur en tête. Il y a des équipes qui voulaient Wembanyama. Clairement, San Antonio, ils espéraient, quand c'est parti en tanking, ils espéraient Wembanyama comme d'autres équipes. Là, s'ils n'ont pas Cooper Flagg cette année, on va voir ce qui va se passer, mais visiblement, il n'y a pas de joueur ultra transcendant. Il faut qu'ils aient une vision à long terme. Ils n'ont pas le joueur autour duquel bâtir, où ils peuvent se dire, bon, bah, lui, on a ce gars-là qui a 22 ans. Type, je veux dire, même les Pistons, par exemple, ils pourraient se dire ça avec Cunningham, tu vois, à la limite. Bon, c'est bon, on a un mec qui est quand même très doué, on va essayer de trouver comment le maximiser. Là, ils n'ont pas ce joueur-là, les Bulls. Donc, soit tu le draftes, soit tu le recrutes, mais je sais, il faut qu'ils arrivent à trouver ce joueur un peu. En fait.
Parce que même Coby White, qui a fait une saison extraordinaire, tu ne peux pas te dire tu vas construire autour de Coby White. La question, c'est finalement, Zach LaVine reste, je pense, parmi leurs joueurs, celui qui a le plus de valeur. Parce qu'il peut vraiment faire la différence, je pense, pour un contender. Ouais. La question, c'est de savoir, le truc, c'est ça, c'est que si tu veux mettre en place un trade, mais mettons même que tu le gardes sur le début de saison en disant, on va attendre qu'un contender soit aux abois à l'hiver et soit prêt à sacrifier tout son avenir pour avoir un scoreur, un puncher comme Zach LaVine. Le problème, c'est que c'est pareil, c'est un projet sur le long terme, parce que tu te dis que si tu l'envoies chez un contender, l'équipe va être forte au moins 2, peut-être 3 ans, donc tu vas demander des pics pour au-delà de cette période-là, en disant, il y a un moment après, ils vont redescendre, mais tu reportes sur super long, en fait.
Ouais, c'est ça. Chicago, ça fait partie des projets très compliqués. Il y a des équipes, on sait que ça va partir sur du tanking. Là, Chicago... Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour eux. C'est triste parce que c'est une franchise iconique. On a envie de voir les Bulls comme ça me fait un peu le même effet que les Knicks. Tu sais, pendant des années, c'était ventre mou ou médiocre, où il y avait des erreurs de. Et au bout d'un an, finalement, ils arrivent à revenir. J'espère que les Bulls auront cette trajectoire là aussi. Franchement.
Ouais. Ou alors, sinon, effectivement, il faut faire ce qu'on fait les Nets, ce qu'on fait au Casey, c'est te dire non, mais on vire tout le monde en fait. Pas grave, on vire tout le monde, on veut tous les pics. Donnez-nous tous les pics que vous avez pour les années et on se débrouille avec. On prend tous les assets possibles. On prend même un mec, je sais pas, on va surpayer n'importe quel gars et puis on va le prendre parce qu'il faut bien, comme on le disait tout à l'heure, il faut bien que quelqu'un touche l'argent dans le roster. Et tu fais comme Sam Presti où tu accumules les assets et tu te débrouilles pour récupérer des mecs au bout du compte, avoir des choix de draft tous les ans, que ça soit pour les garder ou pour les échanger contre des joueurs qui ont un peu de valeur et te dire non, mais je mets de côté et derrière ça repart. J'entendais Zach Lowe qui disait Sam Presti, il coupe jamais un joueur. Hein. Il n'y a jamais un joueur qui est coupé par le Thunder. Il est soit échangé contre un futur pick, même si c'est un deuxième ou un échange de swap en 2037. Rien ne se perd, tout se récupère chez le Thunder. Et voilà, c'est un peu ce que les Nets avaient fait quand ils avaient réussi à. Enfin, le travail admirable quand même qui avait été opéré et qui leur avait permis finalement de récupérer KD et Kyrie Irving. Mais il faut se rappeler qu'avant ça, on se disait, mais ils sont morts pour 15 ans, en fait, les Nets.
Exactement. Avec le fameux trade de Boston avec Boston qui avait hypothéqué l'avenir sur des années et Sean Marks avait vraiment fait du bon travail. Donc il y a des tactiques possibles, il y a des tactiques envisageables, mais c'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre une décision. Quoi.
Exactement.
On ne peut pas rester là comme ça, stagnant, ça ne peut pas marcher. Ce que tu peux vendre aux fans, on va peut-être faire le play-in cette année, puis tu sors au play-in et puis c'est fini, ta franchise elle perd même en valeur tout court.
Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, pour en venir à Chicago, il y a pas d'autre choix s'ils veulent repartir que de toucher le fond pour rebondir.
Je pense aussi. Et alors, il y a une dernière franchise qui intéressait nos auditeurs. Question de François-Xavier, pardon. Bon, pour commencer, je tiens à vous féliciter, vous remercier pour vos émissions. Le point plus important, c'est que vous ne vous coupez jamais la parole. C'est extrêmement appréciable. Donc, merci François-Xavier. Et sa question, les Sacramento Kings sortent finalement d'une saison décevante. Une 9e place et une élimination au 2e tour du play-in. Grosse déception pour ma part, surtout après avoir sorti les iconiques Warriors. En conséquence, quels sont selon vous les ajustements à entreprendre cet été du côté des Kings? C'est vrai que les Kings, c'est une situation particulière parce qu'ils avaient enfin disputé les playoffs pour la première fois depuis... vraiment très très longtemps, et derrière ça coince un peu, il n'y a plus l'effet de surprise et on en vient à se poser des questions du type, est-ce qu'avec De'Aaron Fox et Domantas Sabonis tu peux raisonnablement viser les playoffs tous les ans?
Et ben c'est exactement la question, Chai, parce que c'est vrai qu'au moment du trade d'Haliburton pour Domantas Sabonis, quasiment l'intégralité quand même des observateurs s'était arraché les cheveux en se disant mais c'est n'importe quoi ce trade. Au bout du compte, bah, tous, et moi y compris, avaient sous-estimé l'impact que pourrait avoir Domantas Sabonis. Par contre, ce qui est indubitable, c'est que tu as tradé du jeune pour du vieux. Tu as tradé un joueur qui correspond vraiment à la direction dans laquelle la NBA est en train d'aller contre un joueur. Alors, je ne dis pas un Domantas Sabonis, par son talent de passeur, ce qu'il est capable d'apporter reste un joueur tout à fait actuel, mais dont les failles sont quand même flagrantes aussi. Et la question, c'était de se dire, bon, bah, finalement, à court terme, genre première, saison 1, voire saison 2, le trade est bien plus équilibré que ce qu'on pensait au moment où il était fait. Mais par contre, sur l'avenir, ça va être de moins en moins vrai. Et c'est un peu la situation dans laquelle se retrouve Sacramento. Moi aussi, j'ai été déçu quand même de la saison des Kings. Assez tôt, en fait, j'ai trouvé que je pensais qu'ils avaient passé un certain cap et ça n'a pas été le cas. Et j'ai été aussi, on en avait parlé pareil dans le CQFR, très déçu par le fait qu'ils n'arrivent pas à se qualifier pour les playoffs, qu'ils n'arrivent pas à se défaire des Pelicans pour un match dont on l'avait précisé, hein, Shai, qu'il était hyper important pour les deux franchises, ce match de play-in. Parce que d'un côté, si tu sors les Warriors, comme ça a été le cas pour les Kings, mais que tu n'arrives pas à valider ça en te qualifiant pour les playoffs, en disant bon bah on va peut-être pas aller loin, mais on va embêter un petit peu l'adversaire, on va valider notre participation aux playoffs l'an dernier, c'est problématique. Et ça reste ça, c'est problématique. Donc autant c'était cool, autant le jeu est sympa, voilà, De'Aaron Fox est bien meilleur que ce que je pensais. Moi j'avais fait une croix un peu sur ce joueur-là, je m'étais trompé, c'est un très fort joueur, il y a plein de bons joueurs. Keegan Murray, bonne pioche, là aussi c'était fait beaucoup critiquer les Kings au moment de prendre Keegan Murray à la draft, je pense que c'était une bonne option, mais ça leur a pas permis de passer le cap qu'on imaginait.
Moi, je pense que la vérité, ça va être sur la. Je les imagine pas bouger de manière très très significative sur leur joueur majeur pendant l'intersaison. La vérité, ça va être la saison prochaine, parce que tu peux te dire, allez, t'es dans la conférence Ouest, c'est super dur, c'est vraiment un couteau tiré. Tu peux d'une année à l'autre te retrouver quatrième, puis l'année d'après faire le play-in. Mais tu dois à terme avoir un peu de certitude, un peu de garantie. Et si deux fois de suite ils font pas les playoffs, je pense que ça voudra dire que Fox et Sabonis ensemble, c'est pas suffisant, et que les Kings doivent faire quelque chose et rechercher peut-être un joueur plus qui leur apporte cette garantie-là, justement. C'est une situation compliquée, parce que je veux bien pondérer le fait qu'ils soient à l'Ouest, et qu'à l'Est, leur bilan leur aurait permis d'être un peu plus serein, peut-être de passer même peut-être de passer un tour, hein, on ne sait pas. Sur Fox, si c'est le niveau qu'il a eu pendant la série contre les Warriors l'an dernier, même s'ils la perdent, pour
Clairement.
moi c'est un franchise player avec lequel tu peux voyager, il n'y a pas de problème. Sabonis, ça peut être un très très bon lieutenant. Et après, il y a aussi autour, parce que c'est vrai qu'on parle de ces deux-là, mais il faut aussi voir autour. Est-ce que Keegan Murray, c'est le Keegan Murray de sa saison rookie, et surtout de cette série-là
C'est
aussi
playoff,
dont
ouais.
je parlais, qui était incroyable? Ou est-ce que c'est un joueur qui a logiquement connu un petit contre-coup cette année, tout en faisant des performances ici et là assez incroyables? Ça va être déterminant. C'est ces trois autour de ces trois-là qu'il faudra se poser des questions, et voir aussi comment ils vont se renforcer sur les autres postes, parce que on joue pas à trois au basket, évidemment. C'est pareil, une des équipes un peu intrigantes sur le très court terme, je trouve.
Ouais, c'est d'autant que tu parlais de ce qui était garanti. Ce qui est garanti, c'est le salaire. Domantas Sabonis, c'est 216 millions de dollars. En 2027-2028, c'est 51 millions de dollars de ta masse salariale. Pas simple, pas simple. Mais parmi les autres, toujours les considérations contractuelles, Malik Monk, qui était longtemps en lice pour le trophée de sixième homme de l'année, qui a fini blessé aussi, ça a aussi forcément joué dans le fait que les Kings n'arrivent pas au bout. Mais bon, les Pelicans n'avaient pas Zion, par exemple. Il est free agent cet été, c'est un élément qui est hyper important de leur équipe. Il y a le cas d'Harrison Barnes. Je pense que c'est un joueur qui peut intéresser beaucoup d'équipes, Harrison Barnes, notamment des équipes ambitieuses. Est-ce que ça peut être suffisant pour te ramener des choses en échange qui te permettront d'avoir des choses en échange qui te permettront de passer un cap? Je sais pas. J'ai pas un œil sur les choix de draft dont bénéficieront les Kings, enfin qu'auront les Kings cet été. J'imagine que ça sera pas à la prochaine draft. J'imagine que ce sera pas énorme. Là, c'est pareil. Puis après, bon, non, c'est dur parce qu'il était coach de l'année l'an dernier, Mike Malone. Oui.
Mike Brown, ouais. Mike
Mike
Brown,
Brown,
ouais.
pardon. Mike Brown, qui fait du très bon travail. Très bon travail, mais ça va être hyper dur, mais je me demande si cette équipe n'est pas déjà à son max, en fait.
C'est ça, c'était là-dessus, c'est ce qu'on redoutait. Hein. Quelle est la marge de progression de ces gars-là? Il y a eu. Je reviens à l'effet de surprise. Des mecs ne se méfiaient pas des Kings l'année dernière, parce que c'est historiquement, ils n'allaient plus en playoff. Là, faudrait qu'ils réussissent à faire un peu comme Minnesota a réussi à faire, une équipe qui n'allait quasiment plus en playoff non plus, et qui est avec un joueur, bah, avec Anthony Edwards notamment, et d'autres choix un peu audacieux, ont réussi à, pour l'instant, à se stabiliser parmi les équipes compétitives, mais ça va être l'enjeu du côté de Sacramento.
Ouais.
Question de Grégory, qui au passage est l'un des deux administrateurs du plus grand site de quiz francophone Quizipédia, et qui nous encourage à aller regarder, parce qu'il a fait quelques quiz de basket. Et je suis allé jeter un coup d'œil, effectivement, c'est très intéressant. Il y a des quiz sur Michael Jordan, sur d'autres thématiques pour vous tester, donc n'hésitez pas à y aller. Question sociétale de la part de Grégory. Y a-t-il déjà eu des cas de coming out dans le monde de la NBA? Je n'ai jamais vraiment entendu parler de cela. Si oui, comment cela a-t-il été vu aux États-Unis, pays encore très puritain où Trump pourrait faire son retour à la présidence?
Alors, il n'y a pas eu de cas de coming out des joueurs actifs?
Alors, si.
Enfin,
alors, c'était
oui,
très. Bon.
Enfin,
il était en fin de très toute fin de carrière, mais ouais.
Parce qu'au bout du compte, il a jamais retrouvé de club derrière.
Non, il a fini la saison. Donc on parle de Jason Collins,
oui.
Qui a fait son coming out en cours de saison, ou au début de la saison, et qui après, effectivement, après cette dernière saison avec les Brooklyn Nets, n'a pas retrouvé de contrat. Après, on peut pas dire qu'il a été brocardé, c'est qu'il avait 35 ans, je pense, et c'était déjà plus un joueur très très important de la ligue. Donc ça, on peut pas tellement analyser là-dessus. Mais ce qu'on peut analyser, c'est que c'est le seul en activité qui l'a fait. Il y a eu John Amaechi qui l'avait fait après, hein, on est d'accord?
Après aussi, Jason Collins, l'article dans lequel il avait révélé son homosexualité, c'était en mai 2013, donc il était déjà plus vraiment actif, en fait, parce que la saison était déjà finie. Enfin, je me rappelle plus où on était les Nets à ce moment-là de leur saison, mais ça reste malgré tout, malgré les énormes avancées quand même dans la société, hein, je pense aux États-Unis comme en France, ça reste le dernier tabou dans le sport, les sports collectifs masculins en tout cas. Non, ça. Je sais plus quelle était si la question était simplement historique ou je.
Sais ouais, non, non, bah, il voulait savoir si on avait d'autres et quelle avait été la réaction. Bah, moi, je me souviens surtout que. Alors, globalement, ça avait été accueilli plutôt correctement. Il avait été félicité et tout. Il y avait quelques voix un peu dissonantes, notamment ce cher Mark Jackson qui avait dit qu'il priait pour son âme, qu'il irait sans doute en enfer en gros, mais qu'il allait prier pour lui. Deux, trois par-ci par-là qui étaient un peu. Mais sinon, non. Sinon, globalement, ça avait été plutôt bien reçu. Mais on peut toujours se demander ce que ça aurait donné si ça avait été un joueur un peu plus connu ou un joueur plus jeune. Enfin, on ne sait pas. On sait qu'il y a une culture du vestiaire qui est toujours un peu toxique et qui fait que les joueurs homosexuels n'arrivent peut-être même pas jusqu'au niveau professionnel parce que l'atmosphère n'est pas forcément propice à ça.
Ceux qui ont fait leur coming out, parce que c'est sûr qu'il y en a au
bien
niveau
sûr.
Professionnel, en fait.
Oui, oui, bah, c'est sûr. C'est même pas parmi ceux qui ont fait leur coming out, ouais. Mais comme ça, et du coup, comment ça a été vu? Voilà, c'était, on y a répondu. Il n'y a pas eu de campagne de gens qui étaient scandalisés. Il n'y a pas eu de joueurs qui ne voulaient pas jouer avec Jason Collins, qui a donc joué très. Je regardais, il a joué en 2013-2014, donc il a joué 22 matchs. Il était dans la rotation des Nets. Il a joué un peu, mais pas énormément. Il n'y a pas eu de coéquipier qui disait je veux pas jouer avec lui, comme on avait pu avoir à l'époque. Dans d'autres situations, je sais pas ce que ça donnerait aujourd'hui si un joueur marquant, c'est ce qui manque dans beaucoup de sports, enfin ce qui a pas encore eu en tout cas un athlète très 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 connu qui ferait son coming out, là on pourrait voir quel effet ça aurait dans la foulée.
Mais t'as raison, parce qu'en fait je pense que c'est quand même ce qui se joue, c'est ça en fait, c'est que il faut que ça soit un joueur qui soit une superstar qui ait beaucoup à perdre pour que ça fasse bouger les choses. Je pense que c'est on en reste là. Tant que ça ne sera pas le cas, je ne sais pas s'il y a des joueurs qui causeront, en fait, tenter être le premier. On sait que la NBA, quand même, je ne vais pas dire qu'elle a fait du lobbying, mais aurait bien aimé, malgré tout, que Jason Collins retrouve une place dans une équipe, parce qu'elle se targue d'être la ligue américaine la plus en avance sur toutes ces questions de société. Malgré tout, on sait que ça n'a pas été le cas. Tu parlais de John Amaechi. Alors lui, il n'est pas fait un coming out officiel à l'époque, mais les gens dans son entourage ou dans ses équipes le savaient. Et, par exemple, au Jazz, il racontait que ça a été assez terrible, notamment la manière dont Jerry Sloan le traitait, ce genre de choses. Effectivement, ce n'est pas des choses qui te donnent envie, forcément, d'être le premier à prendre ce risque. Il faudrait que ce soit une star, en fait, pour que ça, pour que, je pense, pour que ça, la, pour que ça fasse vraiment bouger les choses. Je sais pas ce que t'en penses, Shai, mais sinon, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme, tu sais, les mecs qui se font prendre pour les, en NBA en tout cas, pour qui se font prendre pour produits dopants, c'est toujours des mecs marginaux en bout de banc, quoi.
Bah oui, c'est
alors
ça.
que tu dis, attends, si lui il a pris, comment ça se fait que lui il a pas pris, quoi. Et bon.
Non, mais la NBA en plus, je pense, gérerait ça très bien parce que on a vu qu'ils étaient prêts à faire des choses, à annuler des All-Star Games. L'All-Star Game de Charlotte avait été annulé parce qu'il y avait eu des décisions discriminantes envers la communauté LGBT dans cet état-là. Donc, ils avaient dit que ce n'était pas en accord avec leurs valeurs. Donc, j'imagine que ça, que ce serait bien accueilli ou en tout cas bien, bien entouré, que le joueur arriverait avoir du boulot déjà, simplement ça. Mais bon, on n'en est pas encore là. Il y a toujours culturellement aussi une crainte, certainement. Hein, c'est. On verra. En tout cas, j'espère que quand ce sera le cas, ça se passera bien. C'est ce qui est important.
Après, oui, voilà, je pense quand même que la société a vraiment bougé hein, sur ces questions-là.
Bien sûr.
Et j'ose espérer que déjà que ça se passera pour ceux qui ressentent ressentent le besoin en fait de faire leur coming out, qui pourront le faire s'ils le souhaitent, que ça sera bien accueilli. C'est vrai que bon, dans le sport business, il y a aussi, je pense que je peux comprendre des agents qui certainement ne recommandent pas à leurs clients de passer à l'acte parce qu'il y a des implications économiques. Tu ne sais pas si tel ou tel sponsor vont continuer à venir te voir pour te proposer de l'argent pour être le visage de leur produit ou pas. Il y a toutes ces considérations qui rentrent en ligne de compte. Tu sais qu'une carrière, c'est extrêmement court, que finalement, des joueurs qui restent longtemps en NBA, c'est une minorité. La plupart font, je ne sais pas, 4, 5 ans. Je ne sais pas quelle est la moyenne à peu près. Tu sais, la carrière durée moyenne d'une carrière en NBA, mais ça reste court en fait. Donc est-ce que quand tu es dans cette situation là que si t'es pas une superstar, tu prends le risque de te dire bon bah vas-y, je fais all-in et puis tant pis, ou est-ce que tu dis bon bah non, c'est pas grave, j'ai trouvé le moyen de cacher ça pendant je sais pas les 5-7 ans que je vais pouvoir passer en NBA, puis après je vivrai ma vie. Je sais pas, je comprends aussi hein, vraiment que certains soient frileux et n'osent pas prendre les devants, quoi.
Dernière question de la journée qui nous vient de Noé Luna. La saison WNBA commence très bientôt et vous avez déjà dit plusieurs fois, Shai surtout, que la Ligue n'avait pas commencé à exister aujourd'hui avec l'arrivée de Caitlin Clark. Ah, voilà, je vais repasser pour un hater de Caitlin Clark. parmi les joueuses que vous avez pu voir jouer, passées ou actuelles, lesquelles sont vos préférées ou vous ont le plus impressionné?
Donc les joueuses WNBA?
Les joueuses WNBA, ouais. Après, si tu préfères parler de joueuses européennes, enfin d'autres championnats, n'hésite pas, hein, je pense. Mais...
Non, bah, il y en a plein. Allez, je vais commencer par la doublette Subird de Diana Taurasi pour avoir eu le plaisir de les voir aussi avec la sélection américaine. Niveau de jeu juste phénoménal. Tu sais, à chaque fois que je retombe sur la fiche Wikipédia de Subird, je me dis que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Non, mais tu le diras mieux qu'on a. Titre à l'université à répétition, multiples championnes WNBA, des titres européens, tous ceux que tu veux. Coupe de Russie, Euroleague, championnat, tout ce que tu veux, à peu près. Je pense l'intégralité des compétitions auxquelles elle a participé avec Team USA. 5 médailles d'or olympiques, je ne me trompe pas, c'est ça?
C'est ça, 5, ouais.
Voilà, sans compter les médailles de championne du monde, ça n'a aucun sens.
Il n'y a que les titres individuels qu'elle n'a jamais recherchés d'ailleurs, hein, mais elle n'a jamais été MVP ou truc comme ça. Mais c'est la différence avec Taurasi, ils ont un palmarès presque similaire avec un titre de plus pour... Pour Subird, ouais. Mais oui, bah, je te rejoins là-dessus. Moi, je dis souvent, elle est dans le top 3 de mes êtres humains préférés, même Subird. Tu vois, c'est même pas que le basket. J'adore cette fille, tout ce qu'elle représente. Voilà, et la joueuse était géniale, justement parce qu'elle était ultra collective et elle a fait partie de mes joueuses préférées, évidemment. Il y en a d'autres, avant que je me prononce sur les quelques joueuses, est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué, toi?
Ouais, moi j'adore Aja Wilson. Après je suis tombé, je vais pas jouer le mec qui connaît sur le bout des doigts, hein. Je vais vous dire même l'anecdote précise. Je tombe sur un bout de match de WNBA parce que je suivais plus de manière hyper active. J'envoie un message à Achat, je dis mais elle a l'air forte cette nana qui s'appelle Aja Wilson. Il me fait oui elle est MVP en titre, hein. T'inquiète, tu te réveilles. Mais du coup là, pour vous dire que je connaissais pas le pareil, je connaissais pas son statut, et je la trouve incroyable dans sa technique. Si vous aimez le jeu d'intérieur moderne mais avec quand même une palette offensive proche du cercle qui est magnifique, j'adore Aja Wilson. Allez, j'essaie de t'en trouver une ou deux en plus avant de te laisser la parole quand même pour faire le mec qui a suivi. Non, moi j'ai. Tac, tac, tac. Bah, Candace Parker, quand même, qui a pris sa retraite cette année. Comme je te le disais, enfin, comme on en parlait la dernière fois, parce que aussi, c'était. Alors, je vais pas dire que ça avait la même proportion que LeBron, mais pour le coup, c'est vraiment une joueuse dont on entendait parler dès le lycée, parce que son frère Anthony Parker a été une star, notamment en Europe. Moi, je me rappelle de l'avoir vu gagner les titres avec le Maccabi Tel Aviv, notamment, qui avait réalisé un triple. Qui avait été incroyable avec le Maccabi. Donc, on s'était dit, attends, la petite sœur, elle arrive. En fait, la petite sœur était largement plus forte que le grand frère. Donc voilà, non, ça c'est les joueuses, voilà. Et puis cette année, bah, comme tout le monde un petit peu, j'ai suivi un petit peu enfin non, pas un petit peu, j'ai plus suivi le tournoi NCAW que jamais par le passé. Et bah, c'était un vrai kiff, franchement, sur le niveau de jeu, le talent des joueuses, et puis ce dont on parlait, Shai, aussi la personnalité, en fait. Moi, j'ai adoré, en fait, voir la maturité de ces jeunes athlètes, voir à quel point elles étaient prêtes dans le jeu et dans la personnalité. Ouais, voilà. Je vais refermer
Très bien.
là-dessus, mais moi, je serai devant la prochaine saison de NCAA. J'aurai un œil braqué sur USC, parce que
Bah
voilà.
oui, Juju
Moi, je suis
Watkins.
de... ouais, je suis devenu fan de Juju Watkins, absolument.
Très bien, c'est un bon choix. Alors, il y a impressionné et préféré, parce que je crois que dans sa question,
Non.
quels vous ont préféré ou impressionné. Et du coup, pour moi, c'est pas pareil, parce que par exemple, je prends Maya Moore, elle me laissait complètement bouche bée tellement elle était
Ouais,
forte,
c'est clair.
mais c'était pas ma préférée. Ferré, tu vois. Mais par contre, je regardais les matchs, c'était ça a aucun sens. Donc je la mettrais pas
Carmelo avec de la
dedans.
défense.
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Bah, dans les coups de cœur, alors chez les joueuses actuelles, bah, j'ai déjà parlé d'elle, mais ma joueuse préférée, c'est sans doute Alyssa Thomas de Connecticut, parce que elle joue avec des déchirures aux deux épaules, elle se fait pas opérer, elle est incapable de produire physiquement le geste du shoot, mais elle claque des triples doubles. C'est la deuxième meilleure passeuse de la ligue, c'est peut-être la meilleure joueuse. Défensive du monde, elle peut jouer partout sur le terrain. Voilà, c'est une joueuse totale, guerrière. Je l'adore, j'aime vraiment cette joueuse.
Je pensais que tu allais dire que c'est. Je pensais que c'était Brianna Stewart, ta joueuse préférée.
Non, bah, c'est pareil, c'est la joueuse qui. Bah, elle est monstrueuse, elle est absolument phénoménale. Pour moi, c'est un cheat code total, mais c'est pas ma préférée, tu vois.
Ok.
C'est peut-être celle que j'ai plus souvent mis en tête de power ranking quand on faisait des power rankings. Pour déterminer quelle était la joueuse la plus dominante, mais c'est pas ma préférée, quoi. Par contre, oui, même en live, c'est incroyablement impressionnant à quel point elle est forte. Mais bon, mais c'est pas ma préférée. J'ai plus là en ce moment, je préfère Alyssa Thomas. Juste avant, j'ai adoré Elena Delledone parce que il y a le côté smooth, joueuse totale, un peu. Elle était comparée à Dirk un peu, mais elle faisait tellement de choses. Je parle au passé parce que là, elle va peut-être plus rejouer. Elle est en conflit avec les Mystics et c'est pas sûr qu'elle rejoue cette année. Et pour les petits crushs passés, alors crush sans lendemain hein, parce que sa carrière a été ça a été une météorite. Shoni Schimmel passé par Atlanta avec une histoire un peu folle. Elle sort d'une réserve indienne, un jeu ultra flashy. T'as l'impression que c'est un film son histoire, mais derrière elle s'est perdue. Elle a joué très peu de temps en WNBA à cause de problèmes personnels. Donc voilà, ça c'est les joueuses que j'ai adorées. Puis toutes celles dont on a parlé là. En fait, il n'y a pas vraiment de joueuses que j'aime pas. Bah, Sue Bird, fantastique. Même Diana Taurasi, son caractère peut être un peu contrariant, mais c'est tellement une chose incroyable que voilà. Voilà pour les miennes.
Ouais, moi j'adore les deux, franchement. Le duo en plus c'est trop marrant parce que t'as l'impression que c'est un faux yin et yang, alors qu'en fait je
Ouais,
pense
c'est
qu'elles sont
ça.
aussi dures l'une que l'autre, mais moi j'adore
Mais
ce duo
c'était
incroyable.
ce qui était génial, parce que, et c'est encore disponible hein, sur YouTube, je pense, mais pendant le Covid, pendant les confinements, elles ont fait un live Instagram de 4 heures en picolant, donc
Alcoolisé,
elles siphonnaient des bouteilles,
c'est clair.
et elles racontaient toutes leurs histoires, donc sans aucun filtre, hein, des grosses dingueries sur quand elles étaient colocs en Russie, quand elles jouaient pour la même équipe, pour des histoires en WNBA, enfin. C'était juste, t'as juste envie d'être là et de prendre l'apéro avec elle et d'écouter leurs histoires, quoi.
C'est avec Jason Sudeikis qui se pointe à moi, qui a l'air d'être au moins autant allumé que les deux
Ah
pour
ouais, non,
raconter des blagues et tout, c'était assez culte.
mais. Ouais, mais ouais, bon, voilà pour les. Et puis bon, là, on parle des anciennes. Alors oui, c'est vrai que j'ai dit que la ligue n'avait pas commencé à exister avec Caitlin Clark. Par contre, elle va exister, elle va continuer d'exister et prendre des proportions incroyables. Avec Caitlin Clark, que je vais adorer regarder jouer et que je ne déteste absolument pas. Je demande juste, encore une fois, un peu de patience et qu'on lui mette pas trop de pression parce que ça reste une rookie qui débarque dans la meilleure ligue du monde. Voilà.
Voilà, bah, à suivre. En tout cas, les deux équipes d'Indiana seront sympas à avoir jouer l'an
Ouais,
prochain, enfin,
qui l'eût
cet
cru?
été, du coup. Ouais.
Qui l'eût
On
cru?
n'aurait pas misé là-dessus, mais il n'y aura jamais eu autant de caméras braquées sur leurs équipes pro depuis un bon moment. Hein.
C'est clair, et on va enfin parler d'autre chose que d'automobile dans l'Indiana, c'est très bien. Voilà.
C'est ça. On a fait le tour des questions ou t'en avais encore une
Non,
sous le coude, Chai?
non, ça va, on a fait le tour globalement. Sinon, avec vos questions, on pourrait faire des émissions de 4 heures, hein, les gars. Merci pour tous ceux qui nous ont envoyé, mais auxquels on n'a pas pu répondre. Mais ouais, voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
C'est clair. Bah écoutez, merci encore une fois pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Profitez bien de ce week-end riche en playoffs. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les envoyer. Je vous redonne l'adresse exacte cette fois-ci, cqfr.rivers@gmail.com. Vous pouvez bien entendu commenter, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes. On jette toujours un coup d'œil à ça. On répond autant que possible et on vous dit à très vite. Ciao!
Ciao!